Alors merci, merci à tous d'être là. Donc je voulais, on tient cette conférence de presse pour lancer notre campagne pour les législatives dans cette circonscription, dans la sixième circonscription donc de la Seine-Saint-Denis, qui réunit la ville de Pantin et d'Aubervilliers. Donc je serai candidate titulaire dans cette circonscription. Et ma suppléante, vous la connaissez peut-être, donc c'est Harmonie Borde. Tu te présentes comme retraitée de
Roussel-Duclaf.
De Roussel-Duclaf, voilà. Voilà, donc retraitée de Roussel-Duclaf, maintenant Sanofi. Voilà, et qui, par ailleurs, était la candidate historique, on va dire, sur la circonscription, qui n'était pas tout à fait découpée d'ailleurs de la même façon, hein, puisqu'elle n'était pas associée à Aubervilliers. Voilà, donc à côté de moi aussi Daniel Vauzel, qui par ailleurs donc, habite Aubervilliers et qui, toi, tu étais, t'as été suppléante
Non, moi j'ai été candidate municipale en 2008.
À Aubervilliers, d'accord. Voilà, alors je voudrais revenir un peu sur les axes que nous allons défendre dans cette campagne pour les législatives. Vous avez vu que dimanche soir, aussitôt Hollande a été élu, eh bien aussitôt la campagne pour les élections législatives a été lancée. Hein, elle a été, on a entendu la droite hein, expliquer que désormais il fallait absolument réussir cette élection législative pour ne pas donner tous les pouvoirs à la gauche. Hein, puisque le Parti Socialiste étant majoritaire au Sénat, ayant le contrôle de toutes les régions sauf une, allait avoir tous les pouvoirs, concentrer tous les pouvoirs, donc il fallait de façon urgente rééquilibrer les pouvoirs en votant à droite aux législatives.
De son côté, le Parti Socialiste a bien sûr utilisé l'argument inverse, hein, de dire que Hollande étant élu, il fallait au contraire lui donner les moyens de diriger et de gouverner. Bon, ils vont tous nous faire croire effectivement que cette élection, pour ces élections législatives, sont des élections cruciales, hein, que c'est l'élection de l'Assemblée souveraine, hein, puisqu'elle vote les lois. Alors la réalité, ce n'est pas celle-là. Hein. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, sont les paravents du pouvoir. Mais le véritable pouvoir de faire des lois et surtout de les appliquer, il est ailleurs. C'est sûr que les députés peuvent contribuer à l'élaboration des lois, ils peuvent faire des amendements, et ils les votent. Mais ceux qui les écrivent, qui les concoctent et qui en maîtrisent les tenants et les aboutissants, ce sont les hauts fonctionnaires des cabinets ministériels. Ce sont des gens pour lesquels on ne vote pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'est absolument pas en mesure de choisir, ni même de révoquer. Et c'est bien bel et bien cela qui, y compris, traduisent ensuite hein, les fameuses lois en texte réglementaire. Et puis de la même façon, l'application des lois, la façon dont ces lois sont appliquées, hein, l'esprit des lois, ça échappe complètement aux députés. Et là encore, c'est d'autres hauts fonctionnaires, c'est la justice et l'appareil d'État qui se chargent de tout cela. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ce personnel-là, de hauts fonctionnaires, eh bien, il est issu du monde des possédants, du monde de la bourgeoisie, et ils sont de cœur, hein, les défenseurs de cet ordre social. Ils sont complètement acquis à la préservation de cet ordre social. Autant dire que pour imposer des lois qui iraient vraiment dans le sens des intérêts des travailleurs et des exploités, et pour que ces lois soient appliquées, il faudrait tout autre chose que des élections législatives. Hein, alors ce n'est donc pas sur ce terrain électoraliste que nous allons nous présenter. Hein, nous ne dirons pas envoyer un député communiste révolutionnaire à l'Assemblée et il y défendra la cause ouvrière. Non, nous nous présentons pour affirmer, de la même façon que nous l'avons fait à l'élection présidentielle, l'existence d'un courant communiste révolutionnaire dans le pays et pour continuer de populariser un programme de lutte pour les travailleurs, c'est-à-dire l'interdiction des licenciements, l'échelle mobile des salaires, des pensions de retraite et le contrôle des travailleurs sur les entreprises et sur l'économie. Ce programme de lutte, nous pensons qu'il est toujours d'actualité et que l'élection de Hollande, bien sûr, ne change rien à cela. Hein, les travailleurs, y compris avec Hollande à la présidence de la République, ne feront pas l'économie de lutte puissante pour se défendre et pour imposer leurs intérêts vitaux. Alors, on le voit, il y a un sentiment général de satisfaction parmi les travailleurs de s'être débarrassés de Sarkozy. Mais ce n'est pas non plus l'enthousiasme. Et il y a bien peu d'illusions vis-à-vis du Hollande. Et pour cause. Quand même, dans cette campagne, Hollande ne s'est engagé à rien vis-à-vis des travailleurs, sauf quelques gestes distillés au compte-goutte aux uns ou aux autres, comme l'augmentation de l'allocation rentrée scolaire, ou encore la retraite à 60 ans, mais pour ceux qui auront bel et bien cotisé 41 annuités. Mis à part ces quelques gestes-là, Hollande ne s'est engagé à rien d'essentiel et sûrement pas sur des mesures à même de faire reculer le chômage et de combattre la dégradation du pouvoir d'achat, de combattre les bas salaires et de combattre la misère. Et il n'y a en effet aucune illusion à se faire, parce que si Sarkozy est parti, eh bien les maîtres de l'économie et les maîtres de la société sont toujours là. Hein, le grand patronat, les banquiers, les grands groupes industriels et financiers qui ont fait la pluie et le beau temps sous la présidence de Sarkozy continueront de le faire sous la présidence de Hollande. Hein, les marchés financiers n'accorderont pas à Hollande de période de grâce. Et ce qu'on voit, c'est que c'est même le contraire qui va se passer, parce que la crise s'aggrave. On le voit avec la crise politique qui en Grèce, hein, et on le voit aussi avec la situation économique de l'Espagne et de l'Italie qui se dégrade aussi très vite. Bon, les banques européennes sont aux abois et les marchés financiers vont continuer, évidemment, vont accroître, accentuer leur pression sur les gouvernements et sur les États, et ils vont leur demander des mesures d'austérité. Ils veulent absolument des garanties. Alors, c'est ça la réalité. Bien sûr, Hollande va prendre peut-être dans les jours à venir quelques mesures symboliques. Mais ce ne sont pas ces mesures-là qui vont empêcher le chômage et la pauvreté de monter. Hollande va peut-être aussi essayer de donner le change à ses électeurs en cherchant à renégocier le traité européen et en essayant de négocier en particulier un volet sur la croissance. Il y réussira, il y réussira pas, ça on verra bien. Mais dans tous les cas, ce n'est pas en rajoutant une clause sur la croissance au traité européen que ça va faire revenir la croissance. Alors bon, la réalité ne va pas tarder à se faire jour. Hein. On est dans une période de vache maigre. Le grand patronat reprend sur le dos des travailleurs le manque à gagner qui est engendré par la crise. Il n'y a vraiment pas de suspense quant à la politique menée par ces grands groupes et par le grand patronat. C'est celle qui a été menée depuis que la crise a éclaté et qui consiste à aggraver l'exploitation, à bloquer les salaires, à multiplier les petits boulots. Voilà, pour compenser leurs pertes et pour garantir les actionnaires, pour garantir leurs dividendes aux actionnaires, eh bien oui, ces grands groupes vont attaquer toujours plus les travailleurs, vont demander eh bien, à faire plus de boulot avec toujours moins de personnel. Et pour protéger les travailleurs de ces attaques patronales, eh bien, il ne faut pas compter sur Hollande. Voilà, Hollande ne protégera pas les travailleurs, et les travailleurs vont bel et bien se retrouver tout seuls, confrontés aux attaques du patronat. Bon, non seulement Hollande et son gouvernement n'empêcheront pas l'aggravation de l'exploitation, mais ils se mettront, comme tous les autres, au service des puissants. Hein, ils se mettront, comme tous les autres, au service de ces intérêts-là, hein, du capital. Les socialistes ne sont pas plus capables de juguler la crise qu'ils ne sont décidés à défendre les salariés contre le grand capital. Parce que pour défendre les travailleurs contre le grand capital, eh bien, il faudrait être prêt à contraindre le patronat, à lui imposer un certain nombre de choses, et ça, le Parti socialiste ne veut pas le faire et ne peut pas le faire. Alors, ce n'est pas par pessimisme que nous disons cela, c'est au contraire parce que nous sommes convaincus qu'il faut absolument qu'il faut affronter la situation telle qu'elle est et que les travailleurs en ont les moyens, à condition d'être conscients qu'il faut qu'ils se battent par eux-mêmes, qu'il faut qu'ils renouent avec des luttes puissantes, qu'il faut qu'ils rendent coup pour coup. Voilà, nous dirons encore dans cette campagne que s'il est bien difficile et impossible quasiment de se défendre en fait tout seul hein, face à son patron, eh bien collectivement on peut le faire. Et collectivement, à l'échelle du pays, les travailleurs en lutte peuvent imposer bien des choses. Donc pour nous c'est une évidence, il faut défendre cette perspective hein, de programme de lutte, inverser le rapport. Défendre cette idée qu'il faut inverser le rapport de force entre les travailleurs et le patronat et que les travailleurs disent absolument ce dont ils ont besoin. Voilà, donc pour nous, dans la situation, évidemment, il faut interdire les licenciements, il faut imposer que le travail, l'activité soit répartie entre tous les travailleurs sans diminution de salaire, il faut imposer des embauches hein, dans les services publics, dans les transports, dans les écoles, dans la santé, à la poste, il faut imposer des augmentations de salaire, augmentation du SMIC, mais aussi imposer leur indexation sur les prix. Hein. Tout le monde le dit, hein, les prix vont augmenter, le prix du pétrole, tout le monde nous explique que c'est une fatalité, que le prix des matières premières, de l'énergie va augmenter. Eh bien, il faut arracher cette indexation-là si on ne peut pas être poussé hein, dans la misère. Et puis, défendre toujours cette idée que oui, les travailleurs auraient mille raisons hein, de mettre leur nez dans les comptes, dans les décisions des entreprises, dans ce qui se discute hein, au sommet des entreprises, qu'ils doivent imposer un contrôle sur ce qui se passe dans les entreprises en revendiquant en particulier la suppression du secret des affaires. Donc voilà ce programme de lutte que nous allons continuer de populariser. Et puis dans cette campagne, évidemment, nous allons continuer de défendre les perspectives communistes. Bon, toute la situation sociale et politique l'impose. Nous traversons une des crises les plus graves du capitalisme. Hein, la faillite de ce système est patente. Tout indique que la situation s'aggrave. Nous dénoncerons donc ce système capitaliste absurde, inégalitaire, qui nous mène à la ruine. Et nous défendrons encore la perspective défendue avant nous par bien des militants, hein, qui est celle de réorganiser l'économie sur de toute autre base, sans la propriété privée des moyens de production, sans la loi du profit, sans cette concurrence aveugle. Voilà, nous défendrons l'idée que les travailleurs peuvent ensemble et démocratiquement prendre le pouvoir et diriger l'économie pour qu'elle soit mise au service de tous. Voilà, ce n'est pas la population qui doit s'adapter aux contraintes de l'économie, c'est le contraire. Alors cette perspective hein, communiste, cette perspective révolutionnaire a rassemblé dans le passé le gros des travailleurs. Elle a rassemblé dans le passé le gros des travailleurs. Hein, pour les travailleurs conscients de vivre dans une société d'exploitation, cette politique, c'était la seule qui était porteuse de l'espoir de vivre mieux. Hein, et pour les travailleurs, leur parti, c'était ce parti-là, le parti communiste. Alors, à ses débuts, le parti socialiste, avant qu'il abandonne cette perspective-là, et à ses débuts aussi, le parti communiste. Aujourd'hui, hein, les directions de ces partis ont trahi finalement cette politique, ils ont abandonné cette perspective. Ce qui fait que beaucoup de travailleurs sont aujourd'hui déboussolés, sont aujourd'hui sans repères, sont aujourd'hui sans espoir. Hein, et nous pensons que renouer avec cette politique, relever ce drapeau de la révolution sociale, c'est la seule façon, y compris, de contrebalancer l'influence qu'a pris le Front National dans les classes populaires. Parce que si la démagogie du Front National hein, et les idées de préférence nationale marchent en partie dans les classes populaires, qui étaient influencées par la gauche, je ne parle pas hein, de ceux qui se sentaient de droite, et ça c'est encore un autre problème, mais pour ceux qui étaient influencés par la gauche, si cette démagogie du Front National marche, c'est justement parce que les travailleurs ont été déboussolés, se sont sentis abandonnés et trahis, et qu'ils ont été écœurés par la gauche à chaque fois qu'elle a gouverné. Et ce n'est pas avec Hollande au pouvoir hein, que, que ce sentiment-là va reculer. Hein. Ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir, hein, l'aggravation de la crise et cette lutte de classe de plus en plus violente menée par le patronat et le recul pour les subis hein, dans les classes populaires sera mise sur le compte justement des socialistes au pouvoir. Et c'est évident qu'il y aura un rejet. Un rejet fort hein, de cette gauche au pouvoir. Hein, donc, on est dans une situation où, oui, l'extrême droite pourra à bon compte se présenter en défenseur du monde ouvrier. L'extrême droite pourra à bon compte se poser comme le seul opposant. Eh bien, nous disons qu'il ne faut pas, sûrement pas lui laisser le monopole de cette protestation, le monopole de cette opposition. Et il faut absolument que se fasse entendre à l'opposé, aux antipodes hein, du Front National, un parti communiste révolutionnaire, justement, un parti qui, oui, s'oppose, dénonce, soit prêt à renverser ce système d'exploitation, la société capitaliste, et milite effectivement bah, pour changer la société de fond en comble. Voilà pourquoi nous disons que oui, ces perspectives communistes répondent plus que jamais hein, à la situation politique et sociale. Donc c'est bien sûr ces idées-là aussi que nous ferons avancer dans cette campagne. Alors nous vous inviterons, donc tous ceux qui ont approuvé notre programme de lutte que j'ai défendu dans l'élection présidentielle et voté pour ma candidature, tous ceux qui ont déjà fait ce geste évidemment lors de la présidentielle, mais aussi au-delà, parce qu'on sait bien que beaucoup ont apprécié hein, cette perspective, sont convaincus que oui, on n'y coupera pas, qu'il faudra se battre, qu'il faudrait bel et bien imposer tous ces objectifs-là. Mais quand il a fallu aller voter, ils ont préféré choisir le vote utile. Le vote utile Hollande ou le vote utile Mélenchon, hein, avec cette idée qu'il faut peser hein, sur un gouvernement de gauche. Alors, à tout cela, nous dirons que le vote utile n'a plus de raison d'être. Hein, le vote utile n'a plus lieu d'être. Sarkozy est bel et bien parti. C'est chose faite. Et là, il s'agit de donner de la force, de donner du crédit aux idées que l'on a, aux idées que l'on défend. Et tous ceux qui se retrouvent dans ces idées-là, dans ce programme de lutte et même dans cette conviction hein, qu'il faudra changer de fond en comble cette société, il faut absolument qu'ils votent pour les listes lutte ouvrière. Parce que oui, ça leur donnera de la force et ça sera quelque chose d'important. Voilà, je crois avoir tout dit. Donc, je ne sais pas si vous voulez.